8h19 à Paris, la revue de presse des journaux français avec François-Xavier Frelan. Bonjour François-Xavier.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, la seconde voie du canal de Suez inaugurée aujourd'hui en Égypte.
C'est à la une de tous vos journaux ce matin. La Croix parle d'une opération de prestige à propos de cette inauguration en grande pompe en présence du président François Hollande. Les Échos évoquent la nouvelle route du commerce mondial. Le Figaro parle d'exploits égyptiens. Évidemment, pharaonique est le mot qui revient le plus ce matin. C'est le cas du Parisien qui évoque, lui, un canal de tous les records. Un siècle et demi après la réalisation par le Français, rappelons-le, Ferdinand de Lesseps, de l'ouvrage reliant la mer Rouge à la Méditerranée, le canal a été doublé, élargi sur un tiers de ses 193 kilomètres et rendu plus profond après dragage sur le reste de son cours. Les navires citernes pourront désormais se croiser, ce qui permettra de multiplier par deux le trafic maritime sur cet axe majeur pour le commerce mondial. D'ici à 2023, selon le Parisien, 97 navires pourront emprunter le canal quotidiennement contre 49 actuellement. Libération temporise néanmoins. Pour lui, il s'agit en réalité d'un élargissement et un approfondissement d'une section de 37 km et du creusement d'un canal de contournement de 35 km. La prouesse technique est de taille, certes, lit-on dans Libé, mais contrairement à ce que martèle la propagande du régime, les travaux n'ont pas été tous menés par des entreprises égyptiennes.
Car en croire Libération, il s'agit aussi d'une grosse opération de com de la part du régime du président Al-Sissi.
Il se rêve en nouveau Nasser, ironise Libération à propos du président Al-Sissi, qu'on découvre en photo, pleine page en une. On le voit à l'avant d'un bateau qui glisse sur le canal, justement, casquette vissée sur la tête, discuter avec un officier. Ce canal cristallise la fierté égyptienne depuis l'époque où Nasser l'avait nationalisé, le reprenant en 1956 aux Français donc et aux Anglais. C'est la grandeur retrouvée après des années de crise post-révolution. Le régime veut rassurer, même si, évidemment, les autorités égyptiennes redoutent une attaque terroriste sur un lieu aussi médiatique que symbolique, confie Libération. Récemment, un test s'est déroulé sous haute sécurité. Le 25 juillet, les premiers cargos qui ont emprunté le nouveau canal de Suez étaient survolés par des hélicoptères et escortés par des navires de guerre. L'EI ne l'a jamais menacé spécifiquement, mais il est évident que le nouveau canal constitue l'une de leurs cibles. Le frapper reviendrait à s'attaquer à des intérêts occidentaux tout en s'assurant d'immenses retombées médiatiques, explique Romain Caillet, spécialiste des questions islamistes dans Libération.
Au Japon, on commémore la première attaque nucléaire de l'histoire qui fit 140 000 victimes le 6 août 1945.
Et oui, en quelques minutes, aujourd'hui, à 8h15, les cloches ont sonné au mémorial d'Hiroshima.
Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien.
J'ai tout vu, tout. Ainsi, l'hôpital, je l'ai vu, j'en suis sûr.
Ce n'est pas les cloches que vous entendez, c'est l'hôpital, le très bel hommage de Marguerite Duras dans son célèbre film Hiroshima, mon amour. Certains ont tout vu, oui, il y a 70 ans, à la même heure, 8h15, un bombardier B-29 larguait sur Hiroshima la première bombe A, se souvient l'humanité, qui est allée recueillir les témoignages des derniers survivants. Un médecin, justement, de l'hôpital d'Hiroshima raconte un grand cercle de feu flottait dans le ciel, un anneau gigantesque s'étendait au-dessus de la ville. Immédiatement, une masse de nuages blancs se forma au centre de l'anneau et se mit à grossir rapidement, se déployant toujours davantage dans le cercle incandescent. En même temps, un long nuage noir apparut qui recouvrit toute la surface de la cité. Ida Shuntaro, rescapée, a tout vu, oui, à Hiroshima. 300 000 degrés Celsius à proximité de l'épicentre. Les rayons ultraviolets provoquent la perte partielle ou complète de la vue. La chaleur enflamme les vêtements, provoque d'intenses brûlures. Voici ce que j'ai vu, moi, ce matin, dans l'Humanité, à propos de ce 6 août 45 sur Hiroshima, un nom désormais tristement célèbre, marqué à jamais comme l'une des pages les plus sombres de l'histoire humaine.
On termine sur une note d'optimisme. François-Xavier.
Oui, il s'agit d'une renaissance, celle du coureur cycliste qui a failli terminer paraplégique après une chute spectaculaire de vélo, c'était lors du dernier Tour de France. L'Équipe nous raconte le combat de ce champion-là, William Bonnet. « Je me rappelle de tout, dit-il, quand je me suis immobilisé, j'ai voulu me relever et je sentais que ma tête ne tenait plus. J'étais obligé de la soutenir avec une main, j'ai demandé qu'on m'enlève mon casque et j'ai dit « ma tête ne tient plus, ma tête ne tient plus ». vertèbre brisée, artère bouchée. William Bonnet est un miraculé de la médecine qui revient lui aussi d'un cauchemar. Après avoir été opéré des heures à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, il est aujourd'hui en convalescence, en famille, mais la rééducation va durer plusieurs mois. On le découvre en photo avec son impressionnant corset. S'il craint des séquelles, celui qui a un moral d'acier promet déjà de remonter sur un vélo et pourquoi pas un jour de redisputer une compétition.